Juste avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler du collectif des arts de la table. Alors l'art de la table, c'est vraiment une grande tendance dans notre univers déco, vous n'avez pas pu y échapper. Toutes ces jolies tables qu'on peut voir en photo, sur Instagram ou dans les magazines, qui nous inspirent, qu'on a envie de reproduire quand on reçoit, ou même au quotidien. Tous ces chefs et ces restaurants qui font attention autant au contenu qu'au contenant, et toute cette jolie vaisselle qu'on peut voir dans les boutiques, eh bien c'est tout ça que défend le collectif des arts de la table, qui a pour ambition donc de promouvoir et de valoriser la filière française des arts de la table. Grandes marques, créateurs indépendants, artisans et détaillants passionnés, ils sont tous unis d'une même voix pour faire rayonner leur savoir-faire et leurs produits, mais aussi pour vous inspirer. Tous les mois, le collectif des arts de la table vous propose une nouvelle tendance qui vous donne plein d'idées sur les matières, les couleurs et les formes du moment, et bien sûr une sélection de produits de marque française que vous pouvez donc retrouver sur leur site lesartsdelatable.fr ou sur leur compte Instagram @lesartsdelatable. Allez, place à l'épisode maintenant. Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez, si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. À force de voir leur nom dans les reportages déco, j'avais envie de rencontrer pas vraiment, parce qu'ils sont à Bordeaux et nous enregistrons donc cet épisode à distance, Amandine Berton et Julien Fernandez, plus connus sous le nom de Amandine et Jules. Leur travail, créer des reportages complets pour les magazines déco. Monsieur tire l'appareil photo et Madame écrit les textes. Enfin, grosso modo, ils vont justement nous expliquer leur fonctionnement et cet envers du décor qu'on ne soupçonne pas forcément. Bonjour Amandine, bonjour Julien.
Bonjour Hortense.
Bonjour Hortense.
Je disais, oui, on dit Amandine et Jules ou Jules, mais en fait, ton prénom, c'est bien Julien.
Bonjour Hortense, merci pour ton invitation. Oui, effectivement, mon prénom est Julien, mes parents m'ont appelé Julien, mais mes amis m'appellent Jules. C'est mon petit surnom et voilà, je trouvais que c'était plus sympa de m'appeler comme ça professionnellement et ça nous enlève deux syllabes, plus facile à retenir, quoi.
Ouais. Alors, comment votre tout simplement le on va commencer par le début. Comment votre duo s'est créé?
Alors, eh ben, on a d'abord été un couple avant d'être un duo professionnel et on a créé Amandine et Jules exactement il y a 10 ans, en 2011. Nous habitions à Paris. Julien était salarié dans une agence de presse photo et moi j'étais pigiste. Et on avait le désir de s'installer, de partir de Paris pour venir vivre à Bordeaux. Et on a réfléchi, voilà, pendant quelques temps. On s'est dit comment travailler ensemble. Notre désir, c'était de travailler ensemble, d'être indépendant et de pouvoir avoir une activité à Bordeaux. Donc voilà, on a réfléchi à nos compétences qu'on pouvait mettre en commun. Et là, nous est venue l'idée de créer des reportages pour la presse déco française et internationale, de manière complètement indépendante. Donc Julien, lui, s'occupe, comme tu l'as dit, des photographies, et moi, je m'occupe de toute la partie stylisme sur les shootings et de la rédaction, ensuite des textes. Donc voilà.
Donc, oui, si donc l'idée, c'est de proposer des kits, entre guillemets, complets aux magazines, c'est ça ?
Les magazines n'ont plus qu'à maqueter nos reportages. On leur fournit entre 60 et 100 photos avec un texte, des légendes complètes. On en reparlera après, je crois, des photos, mais voilà, avec un choix assez large pour que justement ils aient une liberté de mise en page.
Il faut avoir à l'esprit que des magazines sont composés en interne de 4-5 personnes, voire un peu plus parfois, mais souvent la plupart sont des toutes petites équipes et ils sous-traitent une grande partie de leur contenu à des indépendants comme nous qui leur fournissons bien les photos, le texte, clé en main. Et ils ont besoin de personnes comme nous pour remplir les pages quoi, des magazines chaque mois.
Mais par exemple, par rapport au texte, Amandine, j'imagine que les magazines ont quand même des lignes éditoriales. Donc toi, ils te font des recos ou dans la
alors,
façon d'écrire
Oui, alors c'est certains magazines m'envoient de façon très précise le nombre de signes dont ils ont besoin. Donc après j'ai un texte et après je m'adapte en fonction de leurs signes, voilà. Et puis j'ai une traductrice à Bordeaux, Kate, qui traduit tous mes textes en anglais et comme ça je les vends en anglais à la presse étrangère et après les textes sont traduits en allemand, en néerlandais, en chinois,
d'accord.
Voilà.
En chinois ?
Oui, on a. Ça voyage.
Ouais. Alors, comment vous êtes spécialisée dans la déco, le lifestyle ? C'est plutôt toi, Amandine, qui travaillais
dans
ce domaine-là ?
Alors au départ, oui, parce que Julien, lui, travaillait plutôt dans la presse généraliste. Et moi, j'ai travaillé pour une émission de décoration qui était sur Paris Première, qui s'appelle Intérieur. C'est à ce moment-là où je me suis reconvertie à la décoration. Pour cette émission, au départ, j'ai été embauchée pour créer leur site internet et mettre toutes leurs archives vidéo en ligne. C'est-à-dire que j'ai visionné à peu près 800 vidéos spécialisées sur le design, l'histoire des styles, des portraits de créateurs. Et là, j'ai mis en place un thésaurus, un moteur de recherche. Donc, je me suis vraiment créé une culture de la décoration à cette époque-là. Et j'ai eu la chance de pouvoir ensuite travailler à la rédaction de l'émission, partir en tournage. Donc, là, j'étais journaliste, mais audiovisuel. Et ensuite, je suis devenue pigiste pour des sites web de décoration et des magazines. Voilà.
Et tu as formé Julien à l'univers de la. Tu l'as
c'est
sensibilisé
ça. Ça.
Au monde de la déco.
Exactement. Mais bon, c'est quand même, voilà, moi qui reste un peu le regard plus déco et lui plus. Enfin, esthétique, mais.
Technique ouais.
Aussi. Oui, moi ouais, j'avais donc... je travaillais depuis 15 ans dans la presse à Paris. Et donc, j'avais une bonne expérience du marché, de l'industrie de la presse mondiale. Et du coup, j'avais cette expertise de la façon de commercialiser des reportages, de la façon de les monter, la façon de les publier, enfin voilà, de les vendre aux magazines. Et la spécialisation dans la décoration intérieure s'est faite naturellement. On était dans un environnement où on fréquentait des décorateurs, des gens qui travaillaient dans la décoration. C'était un peu notre univers naturel. Et donc, ça s'est fait spontanément, quoi.
Ouais. Comment justement, parce que tu disais tout à l'heure, les équipes sont plutôt petites dans les magazines et font appel à beaucoup de pigistes, de freelance, d'indépendants. Comment vous démarquez des autres ? C'est par le style ? C'est par, j'imagine, une approche particulière ?
Au départ, on a commencé à travailler pour la presse étrangère. Ça a été le début de notre activité. On a collaboré avec des magazines anglais, allemands, belges, suédois, hollandais, etc. Et petit à petit, on a pu être publié dans des magazines français. Mais je dirais, le style, on a une culture visuelle de la décoration et de la presse déco très aboutie, puisqu'on lit la presse déco depuis... quasiment toujours, en fait, on vient, nous, du print, on aime le papier, et du coup, je dirais, notre style, il vient surtout de notre binôme. On a un fonctionnement qui est un peu particulier parce qu'on travaille que tous les deux. La plupart des pigistes indépendants, photographes et rédacteurs s'associent ponctuellement, c'est-à-dire qu'une rédactrice va trouver un intérieur, proposer cet intérieur à un magazine qui va lui passer commande, et la rédactrice va devoir trouver un photographe. Donc, elle va appeler ses contacts photographes. Elle peut en connaître 4, 5, 6, peu importe. Et en fonction de sa disponibilité, de la zone géographique, elle va collaborer ponctuellement sur un reportage avec un photographe. Et nous, la différence, c'est que déjà, on se présente comme Amandine et Jules, donc vraiment comme un couple au travail, et comme un binôme, comme une équipe. Et donc, je dirais... peut-être il y aura une cohérence dans tous nos reportages puisque c'est toujours le même photographe et la même styliste, la même rédactrice qui les produisent depuis le début. Et je dirais que c'est peut-être à cet endroit-là que vient notre style, Ensuite, on est inspiré par la presse anglo-saxonne beaucoup, donc qui est une presse déco très libérée, où la déco est un divertissement joyeux, avec beaucoup d'humour. Hein. Les Anglais ont du recul sur leur déco et ils osent des choses qu'on voit pas forcément en France, etc. Et puis, moi personnellement, je suis aussi inspiré par les photographes de Suède, voilà, des pays nordiques, etc., qui font des photos très surexposées, très lumineuse, ça serait peut-être dans cette direction qu'on pourrait dire qu'on a un style. Et par le fait que nous ayons dès le départ collaboré avec des titres étrangers, dès le départ nos reportages étaient habités. On n'a jamais considéré les intérieurs comme des matières, comme des natures mortes. Pour nous, en intérieur, c'est avant tout des personnes qui y vivent, et c'est ça qu'on cherche à montrer, plus que les objets, c'est comment les gens habitent chez eux. Et donc, dès le départ, en 2011, on faisait des reportages et on photographiait les propriétaires chez eux. On faisait des portraits, on les photographiait dans leur canapé, en train de bouquiner, on les photographiait dans leur cuisine, en train de cuisiner, de couper des courgettes. On photographiait les enfants dans leur chambre, avec leurs parents, etc. Et ça, c'était en 2011, en France, il n'y avait pas beaucoup dans la presse déco. Enfin, personne ne faisait ça, quoi. Il n'y avait pas encore de home tour, il n'y avait pas de... Il y a Mille que décoration qui
a toujours fait home aussi, mais c'est vrai qu'à l'étranger, ils ne conçoivent pas de présenter un intérieur vide, alors qu'en France, ça évolue, mais lentement. Il y a encore plein de grands magazines où on verra, et je pense que c'est aussi une mentalité. Les étrangers, ils ont moins de pudeur peut-être, et c'est-à-dire qu'en Angleterre, on va donner le nom des chiens, on va vraiment parler de façon intime des gens, la façon dont ils vivent. Alors qu'en France, souvent les gens veulent rester anonymes, ils sont plus vivons heureux, vivons cachés. Ils sont plus, ils veulent pas trop souvent s'afficher. Alors qu'à l'étranger, on a l'impression qu'ils sont plus décomplexés par rapport à ça. Voilà, même des gens qui sont connus, ils sont plus ouverts à se dévoiler. Et du coup, c'est peut-être ça où est la
partie. Vous sentez que c'est un métier qui évolue ? L'approche, la façon de photographier les intérieurs a évolué depuis une dizaine d'années, tu dis ?
Alors, c'est difficile pour nous de répondre à cette question parce que ça, on fête nos 10 ans d'existence à Amandine et Jules cette année. Et on considère que bon, 10 ans, c'est bien, mais on n'est pas non plus, on est encore un peu jeune sur ce secteur-là. Et donc, on n'a pas forcément beaucoup de recul. Ce qui est certain, c'est que je dirais qu'il y aura toujours pour être publié la rigueur de la photo d'architecture, c'est-à-dire des photos nettes, enfin où on voit les lieux vraiment. Et puis peut-être les magazines, oui, ils cherchent à avoir davantage de lifestyle, de photos peut-être avec un peu de profondeur de champ, qui peuvent plus se rapprocher de d'une sensation d'intimité, quoi, de vraiment où on entre à la façon un peu d'un home tour. Mais globalement, pour la presse déco, il y a quand même voilà une grammaire visuelle à respecter qui me paraît pas avoir énormément évolué. Hein. Il y a des magazines avec des directions artistiques très fortes comme Mille Décorations qui vont effectivement s'inspirer de ce qui peut se faire aux États-Unis ou ailleurs et apporter justement cet état d'esprit un peu anglo-saxon, très vivant, très lifestyle de la déco. Après, globalement, ça reste... pour moi, en 10 ans, il n'y a pas grand-chose qui a évolué, si ce n'est que effectivement maintenant, il faut pour le marché français avoir systématiquement des portraits des propriétaires dans le reportage. Ça devient indispensable et je pense que c'est une bonne chose.
Oui, d'accord. Alors sur les shootings un peu plus précisément, comment ça se passe une séance photo par exemple pour trouver les lieux, est-ce que ce sont les magazines qui trouvent des lieux et qui vous missionnent ou c'est plutôt l'inverse, vous trouvez des lieux, des personnes qui acceptent d'ouvrir les portes de leur maison et vous les proposez aux magazines?
Oui, c'est dans ce sens-là. En fait, nous on est vraiment force de proposition, on travaille très rarement à la commande. Pour les magazines, en tout cas. Je pense que ce qui intéresse aussi les magazines, c'est qu'on puisse leur proposer des lieux exclusifs. Et nous, la plupart du temps, en fait, on repère un lieu qui nous intéresse. La première question qu'on se pose, c'est quel magazine pourrait être intéressé ? Parce que comme on travaille avec beaucoup de titres différents, on va pas proposer le même intérieur avec à Home ou à El Déco ou à Côté Ouest. Donc vraiment le seul critère nous quand on voit un intérieur, c'est quel magazine on cible, un magazine. Et si on n'a pas de doute, on va photographier le magazine sans même le proposer. C'est très rare qu'on le montre en repérage à une rédaction. On leur fait, voilà, on préfère que ce soit, c'est plus efficace, en fait, on leur fait pas perdre de temps. Si on n'a pas de doute, comme on commence à bien connaître quand même leurs attentes, on photographie le lieu et une fois que c'est photographié, on envoie, voilà, des previews aux rédactions en leur disant, voilà, on a photographié tel lieu, on pense que ça peut vous intéresser. C'est dans ce sens-là.
Mais vous, comment vous les trouvez, ces intérieurs, du coup, et ces personnes?
La recherche d'intérieur, ça correspond à peu près à presque 60% de notre temps de travail, quoi. C'est vraiment le cœur de notre métier. C'est un travail, je dirais, journalistique, d'enquête, où on va taper dans le dur, quoi. C'est-à-dire que la particularité peut-être de notre style, justement, de notre identité, c'est que on n'est pas forcément très connecté avec les principaux décorateurs français qui font un peu la tendance qu'on voit dans les grands magazines. On n'est pas affilié avec certains architectes d'intérieur. On va privilégier toujours des reportages chez des particuliers qui ont fait leur propre décoration, quoi, sans aide extérieure la plupart du temps. Et du coup, pour trouver des particuliers qui ont des intérieurs intéressants, eh ben, il faut passer beaucoup, 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 beaucoup de coups de fil, quoi. Il faut vraiment remuer terre et ciel pour pouvoir trouver une pépite. Donc concrètement, il y a plusieurs moyens pour trouver des intérieurs. Évidemment, les réseaux sociaux sont une source intéressante, puisque de plus en plus de gens photographient chez eux et montrent leur intérieur sur Instagram ou d'autres réseaux. Donc ça, pour nous, c'est une source qui est intéressante, mais qu'on prend avec des pincettes, parce qu'il y a beaucoup de bruit. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des comptes Instagram de décoration hyper intéressants, mais qui reposent que sur des photos de détails. Des personnes très talentueuses qui peuvent réussir à faire des photos superbes de mise en scène, de table, de petits détails de leur décoration. Et nous, on a besoin d'un intérieur qui soit complet, quoi. On a besoin de voir vraiment les lieux, l'agencement, comment les lieux sont faits. Et donc, c'est un peu trompeur. Instagram, on est assez vigilant. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de choses. Donc, c'est aussi parfois pas très efficace de se reposer que sur Instagram. Après, quand même, avoir analysé de manière assez précise quelles étaient les meilleures sources de prospection pour nous, on s'est rendu compte qu'il n'y a que le bouche-à-oreille qui fonctionne vraiment. Le bouche-à-oreille, c'est la garantie, quand même, dès le départ, d'entrer en contact avec quelqu'un qui a un intérieur dont la personne qui nous recommande, c'est déjà un peu ce qu'on cherche. On a photographié en 10 ans environ 250 maisons et appartements. Il faut que ces intérieurs aient plusieurs critères qui permettent leur parution. Il faut que ce soit des intérieurs qui soient complets, c'est-à-dire qu'on ait une maison avec une cuisine, une salle de bain, une pièce à vivre, une salle à manger, une suite parentale, si possible des chambres d'enfants, des parties communes et en bonus un extérieur. Voilà, donc ça déjà sont les critères de base. S'il manque une pièce dans cette liste, déjà ça va nous poser problème. On va se dire, tiens, la cuisine n'est pas rénovée. Alors peut-être les gens louent, donc ils n'ont pas investi dans la rénovation de la cuisine puisqu'elle ne leur appartient pas. Donc on va se dire, ok, est-ce que le reste est suffisamment intéressant pour qu'on puisse se passer d'une cuisine, parce que les magazines ont besoin de toutes les pièces. Et puis ensuite, dans le style de l'intérieur, de la décoration, on va toujours rechercher une décoration qui est un petit plus, quoi, qui est toujours quelque chose de différent. C'est difficile à décrire parce que les magazines ont des lignes éditoriales qui sont toutes différentes. Donc potentiellement, certains magazines vont chercher que de la maison de campagne, d'autres des maisons contemporaines, etc. Du coup, on va toujours être attentif de voir si l'intérieur, la décoration, le style a de la personnalité. C'est vraiment ça qui compte pour nous. C'est le truc le plus important, un petit twist, un petit élément fort, ça peut reposer sur une couleur, un motif, une vue, un paysage. Ça peut tenir à des éléments comme ça, mais voilà. Donc après, ces critères-là, il y en a d'autres après qui rentrent en jeu, mais je vais faire court. Mais le résultat, c'est que on voit beaucoup d'intérieurs, beaucoup de maisons, et on en choisit peu parce que comme on travaille pas à la commande, il faut qu'on soit sûr de réussir à les publier, ces intérieurs. Et donc, voilà, on prend pas de risque. Dès qu'on a un doute, qu'il y a un des critères qui n'est pas là, on va se dire, tiens, bah là, on réduit nos chances de parution et on est totalement transparent avec les propriétaires. Si on vient chez eux, c'est pour les publier. Pour que personne soit déçu. Et le repérage, c'est vraiment ce qu'il y a de plus long, de plus difficile dans notre métier. Voilà, c'est beaucoup de temps au téléphone, à contacter les gens, à leur expliquer qui on est, à les mettre en confiance, parce que c'est un appel qui est pas forcément naturel, hein, de demander aux gens d'aller voir comment c'est chez eux. Donc c'est quelque chose sur lequel on est très attentif et on essaie de bien le faire, quoi.
Et ensuite, quel est leur comportement, en fait? Ils sont, une fois que vous êtes mis d'accord, ils sont plutôt fiers de montrer leur intérieur? Ils sont plutôt timides? Comment ça se passe?
Aujourd'hui, la plupart des gens qu'on contacte nous connaissent parce qu'on est publié dans la presse française, etc. Ce qui n'était pas forcément le cas au début, où il fallait qu'on explique notre démarche systématiquement et qu'on explique qui on est, etc. Et je dirais, la plupart des propriétaires chez qui on va sont des gens qui aiment la presse déco et la photo déco, et donc ils sont, c'est une forme de reconnaissance pour eux, qu'on photographie leur intérieur et qu'on leur propose de le faire publier. Donc c'est un aboutissement, un instant T du travail qu'ils ont fait dans leur maison, dans leur appartement. Donc, ils sont plutôt contents. Hein. C'est un moment... Alors, moi, je suis assez attentif à ce que cette rencontre soit un moment joyeux. Quand je leur propose de venir chez eux et qu'ils me demandent, parfois, ça arrive, qu'est-ce que j'ai à y gagner ? Eh bien, la seule réponse que j'ai à leur offrir, c'est de passer un bon moment ensemble, quoi. Parce que concrètement, on a à gagner des belles photos, on aura un joli souvenir, on fait des portraits de la famille, donc ça fait un souvenir familial intéressant. La reconnaissance d'être publié, les magazines ont retenu notre décoration, donc c'est sympa, mais c'est tout, quoi, en fait, hein. Donc c'est déjà beaucoup, mais je dirais le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de passer un bon moment avec eux. Il leur offrait une expérience sympa.
Et alors sur le lieu, le jour J, est-ce que on se dit que parfois les photos peut y avoir un petit décalage avec la réalité? Est-ce que c'est très rangé? Est-ce que vous déplacez des choses? C'est optimisé? Est-ce qu'il y a beaucoup de stylisme de la part d'Amandine, c'est-à-dire d'apporter des meubles ou des objets déco qui n'appartiennent pas forcément au propriétaire mais qu'on vous demande de placer? Comment ça se passe?
Alors en fait, on essaie quand même d'intervenir le moins possible. Si on choisit un intérieur, c'est que voilà, qui nous plaît et qu'il est quand même suffisamment abouti pour que voilà, ça nous est arrivé 2-3 fois d'arriver avec une table basse parce que vraiment elle dénotait, ou même les propriétaires disaient ah oui, il faut qu'on la change, mais on n'a pas eu le temps. Mais vraiment, le stylisme que moi je vais apporter, ça va être toujours une base de fleurs, de fruits, de pain pour en effet, pour pouvoir dresser une table dans la cuisine. Du stylisme de nourriture, de fleurs, et puis un peu de textile, parce que voilà, ce qui peut pêcher, c'est que voilà, la parure de lit, elle est passée 15 fois à la machine, elle est un peu délavée, donc je vais amener des coussins, un peu de textile, mais ça s'arrête en général là. Voilà, après les shootings d'été, je vais venir avec des chapeaux de paille, des foutas pour mettre au bord de la piscine, des citrons, mais on modifie pas l'ameublement. En général, si on a choisi l'intérieur, c'est qu'il nous plaît, et on va quand je vais arriver, je vais faire le tour de la maison et je vais cacher les brosses à dents électriques dans la salle de bain, le dentifrice, le sopalin dans la cuisine et les masques dans l'entrée, quoi. Mais on va épurer, parce que sur la photo, voilà, il y a des choses qui, à l'œil nu, quand on vit dans un endroit, on le voit pas, mais comme la photo fige, forcément, il y a des choses qui vont paraître, qui vont plus marquer l'œil que je vais enlever. Mais ça va s'arrêter, voilà, des objets du pec citron, quoi, que je vais cacher sous l'évier et l'étanche, quoi. Voilà. Mais il n'y a pas de, on transforme pas les lieux. Après, là, quand on fait des shootings plus Noël, là, voilà, là, je vais revenir plus avec des guirlandes lumineuses, des bougies. Et puis, voilà, c'est un travail complètement différent que celui, bon, on va peut-être en parler après, qu'on fait, voilà, pour des marques où là, quand on travaille pour des marques de linge de lit ou des marques de mobilier, là, on vide des maisons qu'on remeuble. Donc là, c'est vraiment un
style. Non, bah tu peux nous dire. Faites beaucoup de.
C'est ça. En fait, on va dire que 3/4 du temps, on travaille pour l'éditorial, pour la presse, et le reste du temps, on travaille soit pour l'hôtellerie. On a pas mal travaillé, notamment pour le Club Med. On fait leur photographie de communication pour d'autres hôtels, ou pour des marques toujours liées à l'habitat, mais ça peut être des marques de wifi, des marques de papier peint, des marques de textile, des marques de mobilier. Et là, on travaille avec des boîtes de communication. Donc, soit c'est eux qui ont trouvé des maisons, soit on leur propose, comme voilà, on connaît beaucoup de lieux, de maisons. On leur propose en fonction de ce qu'ils cherchent des maisons. Et là, voilà, là, c'est des camions entiers de stylisme. On vide complètement les intérieurs et on recrée des scènes autour d'un lit si c'est du linge de lit, et pour des catalogues de mobilier on va recréer des salons, des salles à manger, donc là c'est vraiment un travail vraiment que de stylisme
qui est très différent.
Oui.
Un shooting ça dure combien de temps? J'en reviens aux maisons.
Oui. Oui.
Ou aux apparts.
La prise de vue d'un intérieur est très chronophage. Ça prend du temps, on est toujours contraint par l'ensoleillement à un instant donné de l'année. Les périodes d'automne et d'hiver sont pour nous des périodes un peu compliquées parce que le soleil se lève tard et il se couche tôt. Donc on a très peu de temps pour photographier les intérieurs. Quoi qu'il arrive, on prendra toujours une journée pour photographier un intérieur qu'il fasse 600 mètres carrés ou 25 mètres carrés. On va pas dépasser 24 heures, enfin une journée quoi, c'est-à-dire de 9h30 à 17h, parce que il faut quand même garder un rythme, il faut essayer de se forcer à aller un peu vite, parce que sinon on pourrait y passer en fait une semaine à photographier une maison. Ça se termine jamais. Photographier une maison, ça peut prendre une vie en fait. Il y a des personnes qui alimentent des comptes Instagram depuis des années juste sur un intérieur, donc elles y sont tous les jours, elles trouvent toujours des nouveaux points de vue, des nouvelles lumières, etc. C'est infini. Donc nous, on arrive à un instant T de la décoration qui évolue dans le temps, etc. Et généralement, on arrive le matin à 9h30-10h. C'est le moment le plus important du shooting. C'est quand le propriétaire nous ouvre les portes et qu'on se rend compte pour la première fois, enfin qu'on, ça y est, on est là, on vient faire le reportage. Et c'est un moment où on doit être très ouvert, très bienveillant dans la communication, dans l'échange. On a conscience que les propriétaires nous ouvrent les portes de leur intimité, et nous, on a conscience que c'est quelque chose de très précieux. Et qu'il faut respecter absolument. Donc, il doit y avoir une confiance totale et être dans une transparence absolue, quoi. Voilà, on n'est pas là pour mentir ou pour. On est là pour embellir leur vie quotidienne, montrer comment ils se sont appropriés les lieux, comment ils vivent. Donc, première étape, un café ou un thé, on discute, on fait le tour de la maison ensemble, et en fonction de la taille des pièces, du travail à y accomplir, c'est-à-dire un travail qui consiste souvent à ranger un peu et à enlever des éléments plutôt qu'en ajouter. Et en fonction de l'ensoleillement de l'espace, de l'orientation de la maison, on va fixer à environ 10h du matin une espèce de séquençage de la journée où on va se dire « bon, ok, je vais dire à Amandine, il faut qu'on commence par le salon parce que il est orienté à l'ouest et donc le matin il n'y a pas de soleil dans cette pièce. J'aime pas quand le soleil rentre trop fort dans les pièces, donc il faut que il y ait une lumière diaphane assez légère, etc. Et puis on va tourner à rebours du soleil, quoi. Donc on commence par le salon. Après, je lui propose de faire la cuisine. Voilà, je lui dis dans quel ordre on va le faire. Et Amandine commence à préparer les pièces les unes après les autres, et moi je suis. On fait généralement la première pièce ensemble. On est tous les deux, c'est le démarrage. Et donc on aménage, on prépare, on va ajouter des fleurs. On fait ça avec le propriétaire. Hein. C'est un échange. C'est un moment de joie et de fête avec, avec le propriétaire. Hein, c'est parce qu'on implique beaucoup les propriétaires dans le shooting. On leur pose toujours un peu, on leur demande leur avis, qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez des idées, aidez-nous. On s'appuie beaucoup sur le style du propriétaire. C'est lui qui va nous guider. Si on dérape, si on met un objet qui va pas du tout, bah on compte sur lui pour nous le dire, quoi. Attendez, ça c'est pas moi, je comprends pas ce que c'est, donc voilà. Et ensuite, on déroule les pièces les unes après les autres. Amandine a toujours une pièce d'avance sur moi. Donc typiquement, je suis en train de faire la cuisine, qu'elle vient de préparer, et ben pendant ce temps-là, elle sera en train de préparer une chambre jusqu'à la fin de la journée, quoi. On commence, moi, il faut que j'ai fait ma première photo avant 11h. 11h, c'est ma limite. Si j'ai pas fait de photo à 11h, je commence à stresser. Et ensuite, on poursuit jusque 17h, 17h30, quasiment non-stop. Et à partir de 17h30, on commence à être fatigué parce que ça nécessite un travail physique parce que on est en permanence agité, on soulève des objets, on bouge beaucoup des petites choses, mais à quelques centimètres, quelques millimètres près. Donc il y a une fatigue physique et puis il faut être très concentré parce que il faut bien cadrer. Il y a des choses à faire. Donc c'est un moment où moi je vais être très concentré et Amandine va peut-être prendre le relais un peu socialement pour parler avec le propriétaire parce que parfois, il faut toujours garder le contact dans la journée, donc c'est pas forcément évident quand on fait une prise de vue d'être à la fois concentré sur le cadrage, la lumière, la partie technique et parler avec le propriétaire en permanence. Donc ça, le binôme est très précieux pour ça. Et je dirais, on fait une petite pause de 20 minutes, une demi-heure pour déjeuner et à 17h30, on s'arrête, on a couvert toute la maison, extérieur inclus, et là, c'est le moment sympa où on remet la maison exactement telle qu'elle était, parce qu'on prend en photo la maison avant, avec nos téléphones portables, et on remet, si on enlève un portrait de famille, qu'on trouve un petit peu trop personnel, etc., on le remet exactement à sa place. Hein, évidemment, on repart pas sans que tout soit exactement comme quand on est arrivé. Et puis là, généralement, après, les fins de journée sont des moments sympas où on va partager avec les propriétaires, boire un coup, discuter, où on va être plus détendu, on va pouvoir se détendre. Et la rencontre est vraiment la chose la plus importante pour moi, puisque la plupart des propriétaires chez qui on va deviennent des gens qu'on suit dans le temps. Certains deviennent des amis, on reste en contact. Il y a une relation qui se crée et qu'on entretient et qui est vraiment le cœur de notre métier, quoi.
Ouais, d'accord. Est-ce que tu prends du coup sur toute une journée comme ça, on voit souvent les photographes qui prennent vraiment beaucoup 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 de photos. Est-ce que tu saurais nous donner une estimation grosso modo?
Oui.
Et puis surtout, comment tu fais après pour sélectionner? Alors tu disais une centaine à un magazine, et après le magazine en plus va n'en sortir qu'une dizaine. Comment se fait le choix?
Oui, sur une journée de prise de vue, je réalise en moyenne 500 à 600 photos. Je fais environ 40 000 photos par an. Du coup, je fais beaucoup de photos. C'est peut-être un défaut, je sais pas les autres s'ils font autant de photos ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut beaucoup chercher. Et quand on cherche, et ben, on fait des essais qui sont ratés et voilà, on cherche les bons points de vue, les bons cadrages, les bonnes lumières. Et puis une fois qu'on l'a trouvé, il faut qu'on agence un peu les objets, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre dans l'image qui soit naturel et agréable à regarder. Et donc ça nécessite de faire beaucoup de photos parce que par exemple typiquement je photographie un salon avec un canapé, je fais une photo, on se rend compte sur l'écran que le coussin est trop à gauche, donc ça va pas, ça nous paraît déséquilibré, difficile à lire, donc on va le décaler à droite. Finalement, on trouve que ça va pas, on va le remettre à gauche, mais avec trois points. Bref, voilà, c'est ça non-stop en fait. Et donc c'est très, ça prend beaucoup de temps.
Et aussi, ce qu'on peut juger, c'est comme on travaille avec beaucoup de magazines différents qui ont des maquettes différentes et des attentes différentes, il faut qu'on puisse proposer pour chaque lieu des verticales, des horizontales, des gros plans, parce qu'il y a des magazines qui vont mettre que des plans larges, mais d'autres qui vont aimer avoir plein de petits détails, de petites natures mortes. Et donc, c'est pour ça aussi que tu fais beaucoup de photos, c'est que pour chaque point de vue, il faut toujours qu'on ait différents formats pour qu'après, eux, ils aient la plus grande liberté possible de mise en page.
Et l'objectif de tout ça, c'est que on livre un reportage complet où chaque magazine, on collabore avec une soixantaine de magazines dans un pays et on leur fournit pour un reportage le même dossier. Et donc, il faut que qu'ils trouvent tous leur bonheur dans ce dossier, quoi. Il faut qu'ils aient le bon nombre de photos qui correspondent à leur ligne éditoriale, leur maquette, leur direction artistique, etc. Et donc, l'objectif pour nous, c'est de ne pas revenir dans les maisons. On peut revenir amicalement pour passer du bon temps avec les propriétaires, mais ne pas revenir faire des photos. Parce que le pire pour nous qui puisse nous arriver, c'est que on passe une journée à photographier une maison, qu'on y dépense beaucoup d'énergie, et qu'un magazine nous dise, mais attendez, en fait, la cuisine, il n'y a pas de photo horizontale, elle est où, quoi? Et donc, il faut que le jour J, sur la prise de vue, on soit attentif à vraiment réaliser, couvrir l'ensemble des besoins qu'aura un magazine pour publier un reportage, quoi. C'est indispensable.
Ouais.
Donc, ça prend du temps, c'est fatigant, et souvent, les propriétaires sont étonnés du temps que ça prend. Parfois, les propriétaires peuvent nous dire, ça va durer quoi, 2-3 heures? Non, en fait, c'est un shooting, ça dure 6-7 heures, quoi.
Et est-ce que tu fais beaucoup de retouches ?
Oui, le principal travail de post-production réside quand même dans la sélection finale des images. C'est-à-dire que sur ces 500, 600 photos que je vais réaliser au moment de la prise de vue, je vais en sélectionner entre 50 et 70 maximum, ce qui est beaucoup, pour offrir un choix le plus large possible aux rédactions. Cette sélection, c'est quelque chose qui prend du temps, parce que on revoit toutes les photos, les ratées, les bonnes, etc. Les bonnes photos sautent à l'œil rapidement, mais voilà, c'est sélectionner les photos, les mettre dans le bon ordre, c'est déjà quelque chose de pas évident, sur lequel j'ai pas mal d'expérience dans le passé, parce que j'ai été éditeur en agence de presse, tout ça. Mais c'est une partie du boulot qui est très importante. Et la retouche, moi, je l'appelle le développement. Pour moi, la retouche, c'est vraiment de la retouche Photoshop lourde. Par exemple, enlever un élément disgracieux, déplacer un meuble dans une pièce, voilà, ou ajouter des éléments. Ça, c'est quelque chose que je fais pas du tout. Ce que je fais en post-production, c'est simplement du développement, comme on faisait dans le temps en laboratoire quand on développait des films argentiques, c'est-à-dire rendre la photo agréable à regarder, quoi. Et ça, c'est ajuster quelques facteurs de base qui sont la luminosité, le contraste, la saturation des couleurs, etc. Et puis après, ponctuellement, sur certaines situations compliquées, dans des images à contre-jour ou des pièces sombres, etc., là, je vais pouvoir aller repeindre ponctuellement certaines zones pour leur ajouter de la lumière. Le fait étant que les images doivent toujours paraître absolument naturelles et adaptées au plus grand nombre de magazines, quoi. C'est-à-dire que je me refuse d'appliquer des filtres, d'avoir des presets qui soient automatisés, trop simples, etc. Chaque photo est unique, la luminosité est unique, et donc fait l'objet d'un traitement vraiment de développement unique, quoi. Et c'est là aussi très chronophage. Une heure de prise de vue sur le terrain, c'est une heure de post-production au bureau, quoi.
Oui, derrière. On parle beaucoup de la presse depuis tout à l'heure, alors qu'on peut entendre que la presse va de moins en moins bien. Vous, quel est votre regard sur ce point ?
Je suis attentif aux chiffres de diffusion de la presse magazine française et étrangère. C'est quelque chose que j'observe attentivement depuis longtemps. Moi, j'ai commencé à travailler à la fin des années 90, début 2000, en pleine crise de la presse, l'arrivée du numérique, etc. Donc, je dirais que j'ai connu que la crise, quoi. C'est-à-dire que j'ai fréquenté beaucoup de photographes qui ont connu un âge d'or, où les choses étaient plus simples, les budgets étaient très différents d'aujourd'hui. Ça paraissait peut-être plus facile. Les rédactrices en chef en papier avaient peut-être plus d'influence qu'aujourd'hui, etc. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que parmi tous les thèmes magazine papier, celui qui résiste le mieux aujourd'hui, c'est la décoration. Même si les chiffres de diffusion baissent sensiblement chaque année, la baisse est quand même assez réduite par rapport à d'autres magazines culturels ou je sais pas, de télé par exemple. Mais là, en déco, je pense que ça répond à un besoin qui existe toujours. Les propriétaires, quand ils ont un projet de rénovation de leur maison ou de leur appartement, vont se tourner spontanément vers Pinterest ou sur Instagram, chercher beaucoup d'informations. Mais nous, on constate qu'ils continuent quand même ponctuellement, quand ils ont un chantier de rénovation, à acheter la presse pour continuer à s'inspirer et voir justement peut-être des choses qu'ils n'auraient pas vu spontanément sur Internet, parce que tout ce qui est publié dans la presse, la plupart du temps, est totalement exclusif. Donc, je dirais, il y a toujours un peu ce... Il y a la place pour le print. Ça paraît plutôt repartir justement un peu à la hausse, parce que la crise du Covid a profité à la presse magazine. Les gens se sont informés avec le papier, sont retournés dans les kiosques. Donc, c'est une tendance intéressante qu'on observe. Et je dirais que même si évidemment c'est plus les années 80, il y a toujours un intérêt, un marché dynamique et qui est mondial, quoi. C'est-à-dire que là, on parle de la presse française, mais l'équivalent du nombre de magazines déco en France existe dans chaque pays du monde, enfin développé. Mais voilà, c'est donc ailleurs qu'en France, la presse déco se porte bien. Il y a quand même un socle dur de lecteurs qui ne bouge pas, qui est toujours sensiblement le même, qui n'est pas forcément ultra vieillissant. On a notre place toujours à cet endroit-là. Et nous, on vient du print, c'est de notre génération, donc on est attaché au papier. On a encore beaucoup d'émotions toutes les semaines quand on va au kiosque acheter nos magazines. On aime les mettre sur notre table de chevet, voilà, dans notre salon. On est attaché à ça. C'est quelque chose de
comment. Et est-ce que les éditeurs vous demandent, est-ce qu'ils pourraient vous demander de faire évoluer votre métier? Par exemple, il y a de plus en plus de photographes qui doivent se mettre à la vidéo pour mettre sur les sites internet ou pour faire des petites choses sur Instagram. Est-ce que c'est votre cas ou?
Oui, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande de faire de la vidéo, notamment pour des magazines américains, parce qu'ils pouvaient pas envoyer d'équipe. Donc ça peut m'arriver ponctuellement, puisque les appareils photo aujourd'hui font de la vidéo. Mais comme nous, on travaille peu à la commande, finalement, c'est nous qui choisissons notre propre format. Je dirais, en presse, ça prend déjà suffisamment de temps pour nous de faire du reportage print-presse classique, traditionnel, pour pouvoir explorer d'autres formats, quoi. On s'est souvent posé la question, est-ce qu'on devrait fournir avec nos photos des vidéos sous différents formats, etc. Mais en fait, concrètement, on n'a pas le temps, quoi. On peut pas tout faire, c'est un autre métier. Par contre, on peut nous demander davantage en communication, publicité et catalogue, quoi. Ça, c'est quelque chose de plus concret, où là, le client, quand on part photographier un hôtel, une chambre d'hôtel, le client va nous demander systématiquement maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a peut-être 10 ans, de photographier en pensant aux multiples formats de ces canaux de communication, le print, internet, les sites web et les réseaux sociaux. Et ça, on nous fournit des gabarits à respecter. Et ça, c'est une contrainte un peu délicate à gérer, qui provoque pas mal de prises de tête, parce que on va pas faire une photo adaptée à un format carré de la même manière qu'une photo adaptée à une double page dans un catalogue. Donc ça atteint un peu ses limites. Je préfère quand mon client a son community manager qui est là pour faire les photos carrées et moi les photos 24-36 classiques, quoi. Parce que encore une fois, c'est presque deux métiers différents.
Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez d'Instagram justement et de tous les apprentis photographes entre guillemets que nous sommes à essayer de prendre des photos et poster nos intérieurs, etc.
Alors moi, je trouve ça formidable. Je suis totalement autodidacte en photographie. J'ai pas fait d'école, j'ai pas été assistant d'un grand photographe. Voilà, je me suis vraiment formé moi-même, tout seul. Donc, je dirais que dès le moment où on a une bonne histoire à raconter, une bonne lumière et un bon sujet, dès le moment où on a, du cœur, j'oserais dire, une sensibilité qu'on est, je dirais, pour faire une bonne photo, il faut être dans le partage, il faut être prêt à la recevoir. parce qu'une photo vous est toujours donnée, donc il faut être disponible, bienveillant et dans la confiance pour ça. Donc c'est accessible à tout le monde en réalité. C'est un art qui est totalement démocratique et en ça Instagram est génial quoi. C'est vraiment pour nous l'opportunité de montrer notre travail. C'est un accélérateur de reconnaissance pour certains clients qui nous trouvent sur Instagram, etc. C'est notre carte de visite, notre carte d'identité, mais c'est aussi une source pour nous de repérage, de prospection. Donc Instagram, ça a changé la vie, mais évidemment il y a des choses que on apprécie moins, comme l'utilisation peut-être de scripts, de filtres Instagram qui sont pour moi, de mon point de vue de photographe, un peu superficiel, qui n'apporte pas forcément grand-chose à ce qu'on veut montrer hein, dans une photo.
Après... Et les photographes aussi dans la presse sont assez attachés quand même au côté droit d'auteur. Or là, sur les réseaux, les photos circulent quand même beaucoup.
Oui, les photos que je fais sont réalisées pour être vues. Et donc, plus elles sont vues, plus je suis heureux. L'idée, c'est pas qu'elles restent sur mon disque dur à vieillir et à être oubliées. Donc, elles ont une vie en ligne et qui est totalement normale et naturelle. Et je suis pour. C'est-à-dire que la seule limite, c'est l'utilisation qu'on fait de cette image. Si c'est pour la partager, pour s'inspirer, etc., il n'y a aucun problème. En revanche, si c'est pour faire du commerce... là, c'est différent parce que ce sont les intérieurs de particuliers. C'est quelque chose de très sérieux. Hein. On fait signer des contrats aux gens chez qui on va, etc. Il est hors de question que mes photos se retrouvent en 4x3 sans que j'ai été informé et que le propriétaire soit d'accord. Donc, je dirais, c'est un peu ça la limite. Mais le grand public utilise les images, c'est OK, hein, il n'y a aucun souci, au contraire. C'est...
Sans te mentionner, c'est OK aussi, parce qu'il y a beaucoup de comptes, surtout oui. En déco, qui partagent un peu leurs idées déco, leurs inspirations, et qui prennent plein de photos, qui les balancent sur leurs comptes, sans mentionner, pour toi, ce n'est pas un problème.
Non, parce que en fait, les photos qu'on va mettre en ligne, qu'on va voir en ligne de nous, sont des photos qu'on contrôle totalement. C'est-à-dire que si elles sont en ligne, c'est parce que j'accepte qu'elles le soient. Mes photos, elles sont chez mon agent en Angleterre, à Londres, et elles sont absolument contrôlées. C'est-à-dire qu'ils ont des logiciels, des sociétés qui scrutent le web en permanence et qui repèrent les photos dont un usage commercial illégal aurait été fait. En revanche, toutes celles que vous allez voir de moi sur le web, c'est que je suis d'accord pour qu'elles le soient. Il n'y a aucune photo qui est sur le web sans que je le sache.
C'est intéressant comme point de vue. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier shooting ?
Oui, notre premier shooting était important pour nous, puisque ça a été une rencontre géniale. C'était au tout début, quand j'ai commencé à avoir l'idée de faire de la photo déco, donc il y a 10 ans, en 2010-2011. Je suis à l'anniversaire d'un copain photographe à Paris, et dans cette soirée, je discute avec un type super sympa qui s'appelle Hervé, et il me dit « qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis « je sais pas, je suis en train de changer un peu de voix, je me cherche, je pense à faire de la photo de déco. » Et il me dit « c'est génial, moi je viens de rénover ma maison à Mulhouse, je crois qu'elle est sympa, regarde. » Et il me montre sur son téléphone des photos de sa maison qui est canon, quoi, qui est vraiment génial. Et là, j'y vois vraiment un signe fort en fait de la Providence qui me dit « là j'ai mon premier repérage qui s'ouvre à moi alors que j'ai même pas pris la décision encore de faire de la photo déco. » Je lui dis « Hervé, ta maison est sublime, il faut absolument que je la photographie. » Donc ça, c'était le vendredi soir. On se donne rendez-vous à Mulhouse la semaine quasiment suivante. J'achète un appareil photo, un pied, et je pars à Mulhouse photographier la maison sans avoir fait ça du tout de ma vie, quoi. Juste avec ma culture visuelle de la presse et ma connaissance de ce qu'est un reportage, comment on vend, etc. Et ce reportage a été un beau succès. Ça a été tout de suite, ça a bien fonctionné. On l'a publié un peu partout dans le monde, et surtout dans un grand magazine anglais qui s'appelle Living, etc., qu'on adore, qui est un magazine vraiment très vivant. Et j'y suis allé un peu avec mon point de vue français, c'est-à-dire que j'ai photographié l'intérieur de manière très stricte, très architecturale, avec une belle mise en scène. C'était des belles photos d'architecture. Et je propose le reportage à la rédactrice en chef de Living, etc., que je connaissais pas, et elle me dit « Écoute, Julien, c'est génial, on va le publier, mais par contre, où sont les photos des habitants et des animaux, quoi, des chiens, des chats et tout ?» Et là, je lui dis « Mais je les ai pas fait parce que c'est pas intéressant. Ce qui compte, c'est la déco. Elle m'a dit non, nous, on publie uniquement si tu m'envoies dans 48 heures des photos des habitants, quoi. Il me les faut dans 2 jours. Et donc, j'ai repris l'avion, je suis allé à Mulhouse et j'ai passé 2 heures avec Sandrine Hervé. On a fait des photos de la famille dans l'escalier en pleine nuit. C'était des conditions un peu difficiles. Et le reportage a été publié dans Leasing, etc., qui est pour nous la référence. Et c'était un beau signe du ciel qu'on était sur la bonne voie, quoi.
Notre premier shooting et première publication, quelques mois après.
Ouais, top. Ouais. Et est-ce qu'il y a un shooting un peu dingue que vous avez à partager, auquel vous ayez assisté?
Les shootings déco sont une activité relativement calme et paisible. Globalement, oui. c'est pas une activité trépidante d'aventurier.
On n'est pas reporter de guerre.
Mais... Non, voilà. Donc non. Ça correspond bien à notre tempérament qui est calme et voilà. Mais j'ai vécu un moment qui était assez dingue et difficile. Il y a 2 ans, le Club Med m'a envoyé juste avant le Covid. M'a envoyé photographier 2 chambres aux Seychelles. Et donc, je devais passer 48 heures chrono aux Seychelles. J'ai fait un aller-retour express. Et je me suis cassé le genou, genre 2 semaines avant, quoi. Donc, j'étais super, super mal. J'avais vraiment mal au genou. Ça a été une période un peu compliquée. Et j'ai maintenu j'ai maintenu la prise de vue parce que les enjeux étaient trop importants. Et donc, j'aurais dit, vous pouvez compter sur moi, genou cassé ou pas, je les ferai. Et donc, je suis parti 48 heures, dont 24 heures d'avion quasiment, aux Seychelles, avec du bateau, beaucoup de bagages à transporter, tout seul, bon, avec une équipe du club qui était avec moi, mais et sans pouvoir marcher, quoi. C'était un peu fou.
C'est arrivé sous la tempête.
Et oui, c'était la tempête, il pleuvait évidemment, des cordes, etc., tempête tropicale. Donc rien ne s'est passé comme prévu, mais j'ai réussi à faire ce qu'il fallait. Les photos sont sympas, on peut les voir sur le site du Club Med, elles sont très réussies. Mais voilà, c'était vraiment pas gagné d'avance. Et quand on est indépendant, jambes cassées ou pas, il faut y aller, quoi.
Et est-ce qu'il y a un lieu ou chez quelqu'un ou quelque chose de particulier que vous rêveriez de faire?
On aimerait bien développer plus peut-être à l'étranger parce qu'on a fait beaucoup de reportages en France. On avait prévu d'aller en Grèce. Et puis l'idée c'est on a deux jeunes garçons. Nous on aime bien. On avait fait ça en Corse, et de partir en vacances et de d'allier les deux en fait, partir avec l'appareil photo et de profiter de découvrir des nouveaux lieux et de photographier des maisons sur place.
Ouais, on aimerait bien aussi, un de mes rêves, ce serait de photographier certains catalogues de certaines marques qu'on aime bien. Voilà, on a des objectifs aussi en prise de vue, catalogue, pub, etc., qu'on aimerait bien atteindre ces prochaines années. Donc,
quelque chose qui nous intéresse parce que c'est un travail très différent de l'éditorial où on travaille à deux. Bon, avec les propriétaires, mais on est à deux. Et le travail de catalogue, on est vraiment avec une grosse équipe, une douzaine. On a chacun, j'ai un assistant, j'ai une assistante. Pour nous, c'est sympa, ça change, c'est un travail d'équipe. C'est stimulant, c'est en général aussi des conditions assez intenses de travail où il faut fournir beaucoup de photos en peu de temps. Mais on aime bien ce travail qui varie et qui est une autre approche intéressante.
Oui, on adore.
Et est-ce que de bosser dans cet univers déco, ça vous donne sans cesse de nouvelles envies de changer chez vous, d'être sans cesse vraiment inspiré et nourri?
C'est quand même un peu, quand on rentre chez nous, c'est-à-dire on reste très professionnel sur les intérieurs qu'on photographie, on essaie de pas y mettre non plus trop d'émotions, c'est-à-dire que il faut que les intérieurs soient publiables, etc. Mais c'est vrai que à un certain moment, quand on rentre chez nous, quand on a passé la journée dans des très belles villas au bord de mer, etc., on se sent un peu à l'étroit.
On a envie de tout changer le soir.
Oui, voilà, ça peut être un peu frustrant, mais voilà, on reste pro, on sait bien que chacun est à sa place et c'est comme ça, mais.
Après, on vit dans des lieux agréables, mais on change pas la déco tous les 4 matins non plus.
Et d'ailleurs, à quoi ça ressemble chez vous? Quel est votre style déco?
Alors, chez nous, on a la chance de vivre à Bordeaux sur les quais. On a un peu l'impression d'être sur un bateau. On voit quasiment que du ciel, de l'eau, la Garonne et un peu d'arbres en été. voilà, c'est assez lumineux, assez blanc. On a accentué ce côté un peu limite bord de mer, comme on est face à l'eau. On a un parquet blanc, un grand canapé blanc. Et puis après, c'est un mélange de meubles de famille, de meubles chinés, quelques pièces contemporaines. On aime bien l'éditeur Alki parce que voilà, on a des affinités avec le Pays Basque. On a une table qui a été dessinée par des amis designers, Éclat à Bordeaux. Voilà.
Et est-ce que, dernière question, est-ce que ce soit le, quand on est tout le temps comme ça en train de prendre des photos, d'organiser les intérieurs, est-ce qu'en week-end, en vacances, vous êtes tout le temps aussi en train de faire des photos ou vous l'assimilez trop au travail? Et si vous prenez des photos, est-ce que c'est plutôt en mode iPhone détente ou il faut que ce soit un peu parfait quand même?
Alors non, je fais aucune photo de famille en week-end. Je photographie très peu mes enfants et ma femme. C'est vraiment pour moi l'appareil photo, c'est le travail. Je fais 40 000 photos par an et quand je ne travaille pas, l'appareil photo me dégoûte un peu. Enfin, je sature.
Ah oui.
J'ai le regard fatigué quoi. Il faut que je me repose le regard, les yeux, et donc j'ai besoin de pas prendre de photos, de juste observer les choses autour de moi simplement. Et dans les réunions de famille, dans les mariages, tout ça. Voilà, je rechigne à faire de la photo un peu spontanément quoi, hein. Faut pas compter sur moi.
Donc oui, c'est plutôt de la photo iPhone.
Oui.
Oui, spontané.
Ouais. Pour notre premier fils, si quand même t'as fait quelques belles photos, mais le second, le pauvre, non, il a que des photos iPhone de
moi. Ouais, voilà, c'est très bien comme ça.
Flou et de loin et de dos. Super. Eh ben, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant de savoir comment vous fonctionnez.
Merci beaucoup, Hortense, merci d'avoir beaucoup. Pensé à nous.
Merci, Hortense.
Merci.
Avec plaisir. À bientôt.
À bientôt. Au revoir, Hortense.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.